Salut! Qui que tu sois et où que tu vives, je te souhaite la bienvenue pour cette deuxième saison du podcast Poule Podcast. Moi c'est Julia et ça me tenait vraiment à cœur de laisser la parole aux personnes issues de la communauté LGBTQI+, pour nous parler de diversité, de réalité et d'enjeux sociaux. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avec Geneviève Labelle et Mélodie Noël-Rousseau, qui sont les comédiennes et réalisatrices du spectacle Ciseaux, qui a été réalisé par la compagnie Pleurer dans la douche, dont elles sont elles-mêmes les créatrices. Alors comme vous pourrez le voir, on a beaucoup ri, mais on a aussi parlé de choses sérieuses et de choses moins sérieuses, c'est vrai, je vous l'accorde. Dans tous les cas, elles vous invitent à travers leur art à découvrir une petite partie de l'histoire lesbienne du Québec. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pool Podcast. Merci d'être ici. Ça fait vraiment plaisir. D'habitude, pour démarrer, on laisse les invités se présenter. Donc, je vais vous laisser directement la parole pour mettre dans le bain.
Oh!
Yeah!
J'y vais.
Oui,
je commence. Donc, Geneviève Labelle, comédienne, metteur en scène, artiste multidisciplinaire, co-fondatrice de la compagnie Pleurer dans la douche et du café Reine Garçon à Montréal.
Et on est un couple lesbien, donc en tant que bon couple lesbien, je fais toutes ces choses avec Geneviève. Je m'appelle Mélodie Noël-Rousseau et mes pronoms, c'est elle, she, her.
Moi aussi!
Trop bien, ben merci pour cette belle présentation. Puis autour de la table, on a la chance d'avoir deux autres chroniqueuses avec nous. Donc je vais également leur laisser la chance de se présenter comme elles le souhaitent.
D'accord. Ben bonjour, moi c'est Zoé, puis mon pronom c'est elle. Je travaille à la coalition d'aide à la diversité sexuelle et je suis rendu une habituée des Poule Podcast.
Définitivement.
C'est pas mon premier, fait que je suis bien contente d'être de retour avec vous.
T'es toujours la bienvenue, Zoé.
Merci.
Julie Fortier, pronom elle, récemment engagée comme chroniqueuse officielle à Poule Podcast.
Oh!
Donc,
promotion!
Premier épisode officiellement en tant que chroniqueuse. Donc,
félicitations.
Merci.
Champagne.
Accessoirement aussi, je travaille à la coalition d'aide à la diversité sexuelle.
Yes, ben merci pour ces belles présentations. Geneviève, Mélodie, vous faites partie du groupe Pleurer dans la douche, comme vous l'avez annoncé. Qu'est-ce que c'est Pleurer dans la douche?
Pleurer dans la douche, c'est une compagnie de théâtre queer et féministe. On en est à notre... ça fait quelques créations déjà qu'on a, là, avec des noms obscurs. Là. Ouais, c'est ça. Mosca ouais. Techno Remix, ça a existé, ça. Et moi, le Zoo aussi. Mais certains reconnaîtront plus Roquebière, le documentaire, et Ciseaux. Ouais, qui est la pièce qu'on vient présenter, d'ailleurs, en Abitibi. On est vraiment heureuse d'être à Rouen. On est au mois de mai 2023 pour toutes les personnes qui vont l'écouter dans le futur, ce podcast-là. Puis on vient présenter cette pièce sur l'histoire queer du Québec, donc avec un regard très montréalais, l'invisibilisation des femmes dans les luttes queer, dans le fond.
Tu vois, c'est là que je comprends que tu as fait de la radio parce que tu parles, puis tu pars sur un autre sujet.
On Mais voit. Si je peux rebondir sur c'est quoi pleurer dans la douche, là. Dans le fond, c'est une compagnie de théâtre de création. Fait qu'on écrit les pièces, puis on est vraiment... on part tout le temps du document. Donc, on fait du théâtre documentaire. Moi, personnellement, là, Geneviève, le théâtre documentaire, je le justifie, c'est mon obsession pour la télé-réalité. Pour tout ce qui est vrai, j'aime ce qui est vrai, j'aime ce qui me bouleverse, c'est tout le temps ce qui est vrai, mais tu sais, ça se peut que dans 2 ans, je change d'idée, parce que je change tout le temps d'idée dans la vie, mais fait que c'est ça, on est vraiment inspirés, on part.
Mais tu changes pas d'idée par rapport à la télé-réalité, t'es vraiment...
Non, j'aime beaucoup.
Tu restes accro.
Là, en ce moment, on a écouté Survivor Québec.
Oui.
Oh, je connais pas.
C'est très bon, là. Ils essayent de survivre sur une île, mais ils se font mordre par des 1000 pattes géants. C'est très intense.
La pire qu'on a écoutée, c'est MILF Manor. Je regrette vraiment. Allez pas voir ça.
Okay. Interdiction.
Mais est-ce qu'on peut quand même raconter c'est quoi MILF Manor?
Absolument.
On a dit comme l'espace pour parler de ça ou il faut parler d'enjeux vraiment?
Non. Tu as l'espace.
MILF Manor, OK, c'est... MILF, c'est une mother I'd like to...
Quelque
chose du genre. Mais dans le fond, c'est comme plein de MILF, OK, aux États-Unis, qui sont au Mexique, dans une villa. Puis ils sont comme, on a hâte de voir, de rencontrer des petits jeunes sexy. Oh, puis là, le rideau se lève et c'est leur fils.
Oh!
Non!
Non! Ouais.
C'est leur fils.
C'est
puis là, ils sont sur cette île dans une villa et elles crousent les amis de leur fils pendant un mois.
Non.
Et ça crée des couples, pour vrai. C'est assez déstabilisant.
Ouais. Quelque chose. Ça nous pousse à nous questionner sur les normes.
Oui, ben, c'est vrai. Ouais.
Les normes, puis surtout, qui a l'idée d'inventer un tel concept, tu vois?
Mais je pense que c'est quelqu'un qui était... Moi, je pense là, que la personne qui a starté ça, c'est un vieux dude qui s'est dit « Hey, si c'était le contraire, ça passerait-tu mieux? » Il l'a fait. Ça a mieux passé.
Ben oui, ça passe à la télé. Ben, oui. L'inverse, je pense pas que ça serait diffusé.
Non. Ouais. Mais je pense que tous les sujets sont maintenant bons pour faire des téléréalités là, aussi. Ouais. Donc, à quand une téléréalité queer? Je vous lance.
Ah, Occupation double queer, ça serait tellement serait bon.
Occupation hey. Survivor queer. Québec queer ouais, aussi.
Ah oui, il y aurait des rebondissements là. Oh là là.
Mais là, du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on peut considérer Queer Eye comme une télé-réalité ou c'est plus une émission?
Quand même. Genre? J'ai pensé à ça moi aussi. Ouais. Décore ta vie meets télé-réalité.
Ouais. Ils refont leur
ben, je garde-robe, leur chambre. Demander à la pro de télé-réalité.
Oui, Geneviève.
Moi, je trouve que Queer Eye, c'est pas tant une télé-réalité. Okay. Non, parce qu'ils sont payés.
Ah, OK. Il n'y a pas assez d'émotions, peut-être, non plus.
Ouais,
c'est mise en danger.
Ouais, mise en danger. C'est parce que ce qui est le fun de la télé-réalité, c'est que c'est du monde poussé à bout. Ils sont dans des conditions pas possibles. Ils n'ont jamais vécu ça de leur vie. Puis là, tu sais... Ils pleurent, je sais pas. Fait que, dans le fond, c'est ça, le théâtre documentaire, c'est du vrai. On dit des vraies affaires. Fait que moi, je pense que, mettons, pour ma génération, là, pour moi, comment ça m'interpelle, cet art-là. Là. Ouais. Toi, ça t'interpelle-tu, Mélo?
Ben, ça m'interpelle de plus en plus, mais moi, c'est drôle parce qu'on se complète beaucoup, Geneviève et moi. T'sais, Geneviève, elle a un œil de metteur en scène. Moi, j'étais plus à l'écriture, mais de plus en plus que notre parcours avance, plus les rôles se mélangent. Puis très heureusement, on découvre la plume à Geneviève, puis moi, je m'implique un peu plus dans les décisions de mise en place et tout. Puis moi, j'étais plus dans la magie, dans pas montrer les mécanismes. Mm-hmm. Alors que Geneviève aime beaucoup le mécanisme à vue, tu sais, la théâtralité affichée. Fait que de mélanger ces deux langages-là, ça fait des objets curieux, ça fait des objets particuliers. Puis on aime vraiment mélanger les matériaux, là. Justement, dans Ciseaux, on s'est gâtés, là. On va de l'émission pour enfants à l'entrevue Radio-Canada, à la scène de fiction dans une descente policière. Donc, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de styles qui se mélangent. Une bonne poutine. Mais ça colle ensemble.
Mais là, la redondance qu'il y a dans nos spectacles, c'est l'aspect cabaret, l'aspect rapport avec le public qui revient à cause de notre nouvelle pratique drag, et bien nouvelle depuis 2018. Là.
Ouais, t'es un vieux, là. T'es un
vieux. Un vieux drag king! Mais oui, c'est ça, on plonge dans ça, puis c'est vraiment le fun parce que les gens assistent à une forme théâtrale qu'ils sont pas habitués. Mm-hmm. Mm.
Ben justement, en plus, tu parlais de forme théâtrale pas habituée. Le spectacle s'appelle Ciseaux. Ça en dit long quand même déjà sur le titre quand on connaît un petit peu. Pourquoi avoir choisi ce titre-là, Ciseaux?
À cause que c'est des coupures documentaires, de journaux. On a pris nos ciseaux.
Non!
Ça fait référence au bricolage.
Oui, oui. Je
commençais à te croire, là.
Mais on s'amuse beaucoup avec les clichés lesbophobes, tu sais, on utilise beaucoup l'humour, on s'amuse avec ça, on les passe toutes, là, on pose une tablette, on mange de la tarte au poil, c'est ça, on fait le ciseau, on part le show, on fait le ciseau.
Sur la scène?
Sur la scène. Vous verrez.
Et qui sort les poubelles?
Ensemble, parce qu'on fait tout ensemble!
Nous, on est vraiment des U-Haul lesbiennes.
Ouais.
Oui.
Genre 100%. Ah, oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi des U-Haul lesbiennes? Ça te dit quelque chose?
Toi, non, vas-y, non.
OK, c'est, dans le fond, c'est le camion U-Haul de déménagement. Mm-hmm. Ben, c'est parce que les lesbiennes sont réputées pour emménager avec leur partenaire à la deuxième date.
C'est ça. Oui.
Puis nous, ben, on est pas mal ça. En fait, nous, on était censés emménager ensemble avant même de sortir ensemble. Fait que c'est assez U-Haul. Hein?
Oui.
Ah, okay. Peut-être pas, étant donné que vous aviez un... Tu sais, je sais pas.
Ouais, okay. Ouais.
Ben, vous étiez censés habiter ensemble avant.
Oui.
Donc, tu sais.
C'est ça. Puis, coudonc.
On s'était même pas frenché encore.
Fait que c'est encore pire que You All.
C'est ça, y a-tu un avant You All ou...
un pire que You All.
C'est comme si on l'avait déjà loué. On a fait un dépôt
4 ans à l'avance.
C'est ça.
Yes. Et ben, du coup, j'en profite pour poser cette question. Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ensemble ou c'est nouveau comme processus de création de vous être regroupés?
Ben oui, ça fait un bout qu'on travaille ensemble. Mais on s'est rencontrés à l'école de théâtre en 2012, je pense. Oui, on sortait des grèves. Oh, c'était comme à la fin, justement, des grosses grèves qui m'ont beaucoup marquée, d'ailleurs. La grève étudiante de 2012. Mais ouais, on s'est rencontrés en 2012. Puis, l'école de théâtre, c'est quand même 4 ans. Puis au bout de 2 ans et demi, on a créé notre premier spectacle. Puis on a fait une tournée en Abitibi.
Ouais!
C'était vraiment...
Socks!
C'est un show sur... OK. Mais tu sais, mettons, Mélo était hétéro. Moi, j'étais déjà une proud Gwyn. Ben, peut-être pas si proud que ça, mais Gwyn.
Ouais. T'étais pas très proud.
Gwyn dans le placard. Ben, non, elle était pas dans le placard, mais elle était comme...
Un pied en dehors.
Elle avait la main frileuse un peu. Elle tenait pas la main en public, mettons.
Non, Gwyn-là. C'est ça. Elle était comme gênée. Une Gwyn gênée. Une Gwyn, mais Gwyn pareil. Bon. Fait que c'est ça. Puis notre show, c'était l'histoire de deux bas qui... c'était comme l'histoire d'une paire de chaussettes trouées que Gaston le bûcheron mettait au vidange.
Ouais.
Puis ben, ce qu'il réalisait, c'est que tout ce qu'il avait besoin, c'est d'être ensemble. Puis ils devenaient des bas de Noël. Puis on avait écrit des tunes, puis c'était full cheesy. Puis genre même, on accouchait de bébés bas. Ah, oui.
Sérieux, là, il fallait vraiment qu'on finisse ensemble. Là. Après ce jour-là, on était comme, mon Dieu, il y avait beaucoup de signaux.
C'était limite ciseaux 1. Mais pour enfants.
C'est ça que j'allais dire, c'était un théâtre pour enfants quand même.
Oui, puis on est venu deux fois en Abitibi avec ce show-là. Ouais, on s'est promené à Amos, la sœur, Issaouin, à Val-d'Or, c'est ça. Avec notre ami Fred Fournier, qu'on salue d'ailleurs.
Allô!
Allô, Fred!
Et justement, si vous deviez présenter Ciseaux à quelqu'un qui voudrait venir voir le spectacle, en quelques mots, comment vous lui pitcheriez ça?
Ça dépend comment la personne m'approche. Tu sais, si la personne a des réticences en se disant « Je suis invitée à ce party-là? »
Non, genre quelqu'un, tu sais, « Salut, j'ai entendu parler de votre show du théâtre, c'est quoi? »
Ben, on adore dire que c'est un grand party queer, qu'on célèbre la joie queer, puis on visite l'histoire. C'est un cours d'histoire. Mm-hmm. Donc, c'est assez dense, mais vu que c'est tellement traité avec humour, puis qu'il y a des changements de costumes, des changements de scènes, il y a 22 scènes qui se chevauchent, on chôme pas, là. Mais avec des magnifiques projections, tu sais, les concepteuristes ont tellement bien travaillé sur ce spectacle-là, on est vraiment fiers du résultat qu'on a créé en 9 mois quand même. Ouais, c'était vraiment un blitz de création. Ciseaux, on a eu une carte blanche du directeur du théâtre Espace Libre qui était comme « Ah, Roquebière, le documentaire, c'était cool. Est-ce que vous avez autre chose pour moi la saison prochaine? » Puis là, on est débarqué avec Ciseaux. Fait que, ouais, on est pas mal fiers d'être arrivés avec ça.
Notre désir, c'est vraiment de rendre hommage aux personnes qui se sont battues avant nous, là, qui ont mené les luttes. Puis notamment, tu sais, on rend hommage à des autrices importantes comme Marie-Claire Blais, qui d'autre?
J'adore.
On rend hommage aussi à Jeannine Masse, qui a été, qui est la première lesbienne qui a parlé de son homosexualité à la télévision nationale en 68. Interviewée par Bernard de Rome, qui est mon idole d'ailleurs. Jeannine Masse, c'est mon idole, pour vrai. C'est quand même...
Oui. Ouais. Si tu veux, en fait, peut-être compléter l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'elle est passée à la télé?
Jeannine Masse?
Oui.
Ben, dans le fond, c'est ça. C'est une des premières lesbiennes qui s'est affichée à la télé. Puis, 2 semaines plus tard, elle dansait dans un bar avec une femme, puis elle s'est fait arrêter. Mmh. Ensuite, son mari l'a fait interner. Elle a perdu la garde de sa fille. Donc, c'est ça. C'était encore considéré comme une maladie mentale à l'époque. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Les maris avaient tous les droits sur leurs femmes. C'est ça. Donc...
Puis là, on parle de 1742 environ?
Malheureusement, non. 1960.
Wow. 1968. Oui. Même. Mm-hmm. Ouais. Puis tu sais, 10 ans plus tard, 10 ans après ça, il n'y avait même pas le droit de l'avortement.
Mm-hmm. Ouais.
Tu sais, je pense que ça passait en 77, quelque chose du genre. Mais tu sais, c'est assez fou là, de remettre ça en perspective, de se dire, aïe aïe, rien n'est acquis.
Pas du tout.
Non. Ouais.
Mais oui, Ciseaux, gros party queer, où on apprend beaucoup de choses. Et tout le monde est invité, même ton ami hétéro. Oui?
Faut pas montrer notre carte de queer.
Non, pas besoin, surtout pas. C'est ça, on veut que tout le monde se sente bien, justement. Même si ça peut paraître un peu obscur, les concepts queer pour certaines personnes, je pense que c'est une bonne façon, justement, de les apprivoiser.
Puis dans le fond, en sortant des faits vécus, mettons, du passé, ces choses-là, dans le fond, ça l'aide à avoir une meilleure compréhension d'aujourd'hui la société, pourquoi elle a ces réflexions-là, puis pourquoi que nos luttes sont, ou ce qu'on en est rendu dans nos luttes. Je pense que les histoires que vous relatez vont nous aider justement peut-être à mieux comprendre où ce qu'on en est rendu aujourd'hui dans nos luttes, puis s'il y a des avancées ou si on recule, justement, il faut faire attention, je pense.
Ouais. Mais oui, puis tu sais, la question de base qu'on s'est posée en créant le spectacle, c'est pourquoi il n'y a pas de bar lesbien?
Mm-hmm. OK.
Fait qu'on est parti de là, puis on a découvert dans nos recherches que dans les années 80, le plateau Mont-Royal, à Montréal, était un genre... Il y avait comme 30 bars lesbiennes. Non, pas 30, mais pour vrai, là, c'était comme... C'était là, on appelle ça l'âge d'or lesbien. Okay. Puis c'est assez impressionnant de réaliser ça, de découvrir ça. Puis je suis comme, mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il n'y a plus de lesbiennes sur le plateau Mont-Royal? Qu'est-ce qui explique le fait qu'il n'y a plus de bars lesbiens? Tu sais, il y a plein de raisons, mais oui, justement, tu sais, j'étais comme, il y a eu cette ère-là merveilleuse que j'aurais donc aimé vivre.
Le bilitis, le labyrinthe. Il y avait aussi des librairies, en tout cas.
Ouais. Ouais. Puis souvent, les gens vont dire, mais pourquoi aujourd'hui on aurait encore besoin de ces espaces-là? Mm-hmm. Puis on s'est posé nous-mêmes la question, est-ce qu'on est assez ouvert? Est-ce que la société est assez inclusive? Puis on se rend compte que, c'est pas tout à fait acquis. On peut pas embrasser sa blonde dans un bar tout simplement sans avoir de regard ou sans penser qu'on est là pour attiser le regard masculin.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'au niveau lesbienne, il y a plus de discrimination qu'au niveau, mettons, gay, homme gay?
Juste le mot est moins démocratisé. Okay. On a de la misère encore à avoir le lesbienne en bouche. Là. On dit femme gay, ouais. Homosexuelle, là, puis j'ai rien contre les personnes qui s'identifient de cette façon-là. Okay. Mais je pense qu'on a encore un petit peu de problème avec le mot lesbienne.
Puis je pense qu'il y a autant de discrimination, mais elle est différente. Okay. Puis elle est invisibilisée.
Okay.
Ben oui, c'est ça. Puis je pense que ça a été hyper sexualisé aussi. Donc on a de la difficulté aussi à se détacher... du côté justement sexualisé que les lesbiennes ont été confrontées. Là. C'est encore la réalité, malheureusement. Là.
Mais je pense que j'aurais quelque chose pour expliquer ça. Si on regarde au niveau de la pornographie hétéro, on va voir des scènes de lesbiennes, mais on ne verra jamais d'hommes gays dans un film hétéro. Si tu veux vraiment voir deux hommes, il faut vraiment que tu loues la porn gay. T'sais? Mais des relations lesbiennes, on va en voir beaucoup dans les films hétéro.
Ouais.
Donc, je pense que cette stigmatisation-là a beaucoup à jouer aussi, je crois.
Il y a aussi le fait, comme la domination masculine, le fait que, dans la tête de certains hommes, c'est juste qu'elle n'a pas été baisée de la bonne façon. Là. C'est pour ça qu'elle n'est pas sur le droit chemin. T'sais. Puis il y a eu dans le passé beaucoup de viols de correction là, qui se sont passés. Puis dans certains pays, c'est une pratique encore courante.
Oui, malheureusement. Ouais.
Mm-hmm. Est-ce que ça ne serait pas justement un des effets du patriarcat? Parce que je crois justement dans votre dans CISO, c'est un des sujets que vous abordez.
Oui, on n'a pas le choix. Avec notre première... La première réflexion entamée avec Roquebière, le documentaire où on parlait de l'invisibilisation des drag kings sur la scène drag. Là, on était comme, sont où les drag kings, coudonc, tu sais? Puis même dans les communautés, on s'est rendu compte qu'il y avait cet effet-là de sexisme. Puis les relents du patriarcat affectent aussi les communautés de la diversité, tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que oui, on s'amuse à déconstruire ça. Avec nos drag kings, c'est sûr qu'on aime ridiculiser, on plus grand que nature. On aime bien avoir des grands traits puis de se moquer. Ouais. Mes effets gentiment.
Mais ça doit être satisfaisant quand même un peu.
Oui. Enfin, on a le sexe fort, tu sais. C'est ça qu'on dit souvent. Il y a la loi de punch up, punch down qu'on avait appris. Tu sais, nous, étant le sexe faible, on peut puncher up. C'est moins bien vu de punch down sur des personnes qui sont peut-être moins... qui n'ont pas les mêmes droits que nous. C'est ça. Ouais. Mm-hmm. Fait que peut-être qu'un homme qui porte les traits de la femme, c'est moins accepté de se moquer. Il y a ce côté frileux-là quand même, par rapport à la drag queen, qu'on a peur qu'il se moque de la féminité. Mais
Mais c'est politique, en fait. Faire du dragging, c'est carrément ça, tu sais, puis... Puis nous, c'est notre approche aussi, là. On n'est pas... tu sais, il y a plusieurs personnes qui font du drag king qui sont dans l'expression de genre. Mais nous, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans la caricature, dans l'humour, dans les dénonciations. Puis tu sais, un des numéros que j'adore faire, c'est une tune qui s'appelle Ding Dong de Gunther, là. Puis c'est comme « Oh, you touch my tralala, my ding ding dong ». Je pense que j'avais fait à Val d'Or.
Oui.
Mais c'est ça. Puis dans le fond... C'est comme, tu sais, pour moi, c'est un numéro sur le consentement.
Oui.
Parce que j'ai comme un grand bâton avec une main au bout, puis je le donne au public, puis j'ai dit, vas-y, touche-moi à graine. Tu sais, touche-moi la paire de bas que je me suis mis là. Puis c'est vraiment, tu sais, puis aussi, ça, c'est comme ma vision de certains hommes obsédés sexuels. Tu sais, genre, pour moi, Hervé Metal, mon personnage drag king, c'est un peu ça. Tu sais, j'aime rire du fait qu'il est comme... C'est pas clair, là. C'est pas clair qu'est-ce qu'il a envie de... Mais il est dirigé... OK, non, ce qui est clair, c'est qu'il est dirigé par une chose, puis c'est sa graine.
Ouais, 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 voilà.
Alors que Roger, lui, il est plus complexe, là. Tu sais, c'est un mononcle de région. Tu sais, on sait c'est qui Roger, là. Tu sais, on a tous un Roger dans notre vie.
Oui.
Ouais, d'ailleurs, c'est un de nos jeux préférés, là, identifié dans la rue. Ah, ça, c'est Hervé Metal. Ah, ça, c'est Roger.
Ouais, ouais. Ben, on a découvert qu'en région, il y avait plus de rugbière.
Ah,
ah ouais. Ouais, à Montréal, il y a plus d'Hervé Metal.
OK.
Dans le fond d'une ruelle.
Peut-être qu'après avoir vu votre show, on va avoir la même vision, nous autres, ici. Ouais, on va en voir partout des rugbières et des Hervé Metal.
Puis, tu sais, t'as dit que, en fait, c'était beaucoup... vous passez beaucoup par la moquerie,
ouais,
d'une certaine façon, tu sais, par l'humour. Est-ce que, tu sais, de ce que vous voyez, est-ce que toutes les personnes qui font du drag king... C'est ça un peu pour revendiquer, contrairement à peut-être les drag queens qui sont un peu plus dans les... Oui, dans l'utilisation des stéréotypes, mais peut-être un peu moins dans l'humour. Ben, ils sont dans l'humour, mais en tout cas, je sais pas si vous voyez un peu...
Ouais, ben en fait, souvent le drag king va aller vers l'humour, mais vraiment, il y a tous les types de drag, puis c'est tellement fluide maintenant dans l'expression du genre, même dans la drag, donc c'est ça, il y a le côté camp, le côté plus la beauté, les drags plus Instagram, il y en a qui vont chanter, c'est ça, il y a vraiment tous les styles. Nous, on est très campy, moi j'aime beaucoup m'associer au trait plus naturel, si on veut. Je vais être moins flamboyante dans mon apparence. J'aime ça, avoir l'air d'un mâle, tu sais. Puis c'est de la façon que je fais de la drague, tu sais. Je vais me mettre 2-3 brillants sur le bord de la joue, là, OK, là, mais tu sais, c'est comme ça que Roger aime être. Fait que j'aime ça aussi pousser un peu plus, aller dans des couleurs extravagantes, mais si, admettons, Roger, là, je vais en plein dans sa zone de confort, là, tu sais, c'est ça.
Yeah. On a un énorme costumier, OK? C'est dérangeant, là, mettons, la grandeur du costumier. Puis, on a un rack de côtes de cuir noir. Mais un rack complet, là. Puis là, Rock, il choisit son côte, lequel il va mettre, tu sais. Quelle côte de cuir noir? Parce qu'il y en a un qui a des franges, il y en a un qui a des typiques, il y en a un qui a des, tu sais, hein? Puis il est fancy.
Très fancy. Puis je peux pas m'en débarrasser d'aucun, là. Ouais, je suis attachée émotionnellement.
Je me remets pas des côtes noires. Et...
C'est pas vegan, ce garde-robe-là. Mais c'est acheté seconde main, par exemple.
Parfait,
voilà.
Okay.
Oui, oui.
Okay.
Mais justement, en parlant de grandes personnalités, quand même, Roger puis Hervé Metal, c'est ça, si j'ai bien compris. J'ai lu, parce qu'on va dire que j'ai fait mon travail de personne qui fait un podcast. un petit peu. J'ai lu que vous aviez des enregistrements de personnalités connues au Québec aussi dans votre spectacle. Est-ce que vous allez les présenter ici aussi ou pourquoi, en fait, surtout avoir amené ça dans le spectacle?
Mm-hmm. Ben, en fait, c'est ça, notre approche documentaire passe par les entrevues qu'on a menées avec, entre autres, Safia Nolin, Manon Massé, Julie Vaillancourt, Calamine. Mm-hmm. Écoute, il y en a vraiment beaucoup. On a rencontré 18 personnes, puis ça, c'était fou parce qu'on rencontrait une personne, puis là, Lynn Chamberlain, qui est comme une historienne vraiment importante, tu sais, qui a écrit « Mémoire lesbienne », qui relate justement le vécu des lesbiennes des années 50-60, tu sais, c'est comme personne n'a fait ça, à part Lynn Chamberlain, c'est comme de l'or, ce qu'elle a fait. Puis l'interviewée, elle était comme, après ça, elle nous écrivait, puis elle était comme, faut que vous rencontriez Lise Bernard, qui a travaillé à tel bar, parce que là, on voulait avoir une histoire sur ce bar-là, qui était comme,
Le Gillies.
Le Gillies.
Ouais.
Fait que oui, c'est ça. Puis dans le fond, sur scène, on entend leur voix, on entend leur témoignage. Fait que ça, c'est vraiment fort. Puis nous, on dialogue avec eux pendant le spectacle.
Mais des fois, c'est vrai qu'on aime incarner des personnalités pour se moquer, entre autres Éric Duhaime. on a failli incarner Peter McLeod, mais on n'y a pas donné autant de visibilité qu'Éric Duhaime. Donc, ça va par degré. Le spectacle Ciseaux, dans le fond, est parti aussi de la réflexion par rapport au discours d'Éric Duhaime qui disait, ah, avec son livre, Le dernier homosexuel. Donc, on se disait, OK, c'est pas nécessairement ça qui se passe. Il y a encore des luttes à mener. Donc, on avait besoin là, de ridiculiser ça un peu. Donc, il apparaît en gros bébé là, dans le spectacle Ciseaux. Ouais.
Parce que lui, il dit que la culture du viol, c'est une invention des féministes. Il dit qu'il veut pas... Parce que lui, Éric Duhaime, on se rappelle, il est gay. Mais il ne veut pas être associé à la communauté gay. Puis, ben non. Ça, c'est un peu... il dit... En fait... Lui, son positionnement, c'est que c'est un lobby. Puis que nous, on va chercher les subventions du gouvernement. Oui. Pour, on essaie de faire pitié pour aller chercher les subventions du gouvernement. Pour,
En fait, je pense qu'on pourrait le définir comme un gay cis-hétéronormatif.
Oui.
Puis il y en a beaucoup.
Effectivement.
Il y en a beaucoup, c'est tannant.
Mais c'était peut-être pour la survie à une certaine époque, tu sais, de vouloir passer dans la société hétéro, tu sais, normative.
Ben, je pense qu'on a parlé de patriarcat tout à l'heure. C'est une influence aussi. Ouais. C'est partout. Même si on cherche des endroits qui n'est pas influencé par le patriarcat, c'est difficile.
Mm-hmm. Très.
J'ai une question à vous poser. Je pense que vous êtes quand même très impliqué justement dans la communauté, j'ai l'impression, depuis quand même plusieurs années, malgré le fait qu'au début, bon, on était Gwyn peut-être un peu dans le garde-robe. Mais est-ce que c'est quoi le moment qui est comme le feu qui est arrivé pour vous dire, OK, il faut qu'on démontre avec notre art, faut qu'on dénonce quelque chose, faut qu'on milite? Parce que c'est ça, là, quand même, de ce que j'entends, le show, c'est quand même très militant d'une certaine façon. Là.
C'est venu avec la drague.
Okay.
C'est vraiment venu avec la drague. En 2018, quand Roquebière est né sur la scène du Cabaret Mado, a gagné la compétition Drague-moi. Ensuite, Hervé Métal a gagné la compétition Drague-moi. Puis, on a comme compris qu'on avait une place à prendre en tant que femme dans la communauté. Donc, nous, c'est notre combat à nous, c'est très personnel. Puis, c'est ça qui a fait qu'on s'est plus affiché aussi, même au café. On est propriétaire du Café Reine-Garçon. Donc, même au café, on a commencé à plus s'afficher puis à avoir des réflexions par rapport à notre rôle dans les communautés, puis de voir que c'est ça. Parce que si j'avais pas un rôle à jouer nécessairement, je sais pas si je serais autant affichée. Mais de voir aussi d'être confrontée à l'homophobie dans ma famille, ça aussi, ça a été un élément déclencheur de dire « Ah, mon Dieu, mais dans un milieu tellement aimant, je peux être confrontée à des difficultés de compréhension, puis avec de l'éloignement. » Puis je suis là, « Ah, bon, ben il y a clairement encore des luttes à mener, justement. » Fait que, ouais.
Puis moi, il y a quelque chose dans la culture gay que je trouve vraiment flamboyante, puis le fun, puis que ça me gosse que la communauté lesbienne, ça soit pas flamboyant. Oui. Tu sais, pourquoi on n'est pas comme glitter? Puis genre, je pense qu'on l'est. Je pense qu'on l'est vraiment. Puis on est vraiment des party animals. Là. D'ailleurs, le party de la journée de la visibilité lesbienne, ça a fini en gros limbo, là, intergénérationnel, au bain Mathieu, c'était plein à craquer, le monde était sur le party, c'est le fun, puis tu sais, puis c'est ça, puis en fouillant dans les archives, on a découvert que les lesbiennes organisaient des danses, puis ça nous a vraiment marqué, le fait qu'ils organisaient des danses, puis genre, c'était ça leur trip, puis aussi, tu sais, les lesbiennes ont toujours été très dans le communautaire.
Ouais.
Dans le communautaire, il y avait comme un endroit qui s'appelait l'école Guilford à Montréal, qu'il avait créé. Puis ça, c'était un centre communautaire pour lesbiennes. Ils donnaient des cours d'autodéfense, des cours de tricot, des cours... Tu sais, genre, ils donnaient des cours de plein d'affaires. Il y avait une chorale. Ils trippaient. Ils trippaient ben raide. Puis ben c'est ça. Moi, j'ai le goût de faire renaître un peu ce sentiment d'appartenance-là. Puis j'ai pas... J'ai besoin que ce soit très inclusif aussi. Tu sais, nous, on revendique le mot lesbienne, on est queer. On a besoin que ce soit inclusif parce qu'on ne s'identifie pas à l'aspect transphobe d'une certaine génération de lesbiennes.
Ouais. Mm-hmm. Puis, si je peux me permettre une autre question. T'sais, d'après vous, c'est où ça a été justement invisibilisé? Parce que c'est vrai que je pense que dans l'opinion populaire, t'sais, bon, si on compare les gays avec les lesbiennes, c'est ça. Si on met des couleurs, là, les gays sont flamboyants, comme tu dis, glitter, alors que les lesbiennes, souvent, on voit que c'est comme terne. J'ai l'impression que les couleurs sont ternes comparées à la communauté gay. Pourquoi? Avez-vous une explication de ce que vous avez?
Je sais pas, parce qu'on fait des bébés! C'est la chose la plus glitter qu'on peut faire! Non, mais genre, pour vrai, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais...
Dans vos recherches, est-ce que vous avez vu un fil conducteur? Avez-vous réussi à...
On se range. Les lesbiennes vont souvent être proches aidants. Vont souvent... c'est ça. C'est comme si on finit par avoir le rôle de mère.
Comme les femmes en général dans la société aussi, qui sont sous l'effet du patriarcat, on vient encore à ça.
Oui, puis il y avait une autre réponse aussi par rapport à ça, c'est le mouvement queer. Quand le mouvement queer est débarqué, on est tous devenus queer, mais les gays sont restés gays. Oui. Je sais pas si c'était Julie Podmore ou Lynn Chamberlain qui disait ça, en tout cas une grande. Fait que c'est ça. Fait que ça en quelque sorte invisibilisé les lesbiennes, donc... C'est ça. Mais tout peut coexister. Tout existe.
Ouais.
Tout est à faire.
Mais moi, je serais intéressée de savoir par où vous avez commencé dans vos recherches. Parce que c'est pas évident, genre, de trouver ce genre de texte ou d'archives ou de... Comment vous avez fait?
C'était vraiment tough. Je pense que c'est ça. On est parti de l'audio. On est parti des rencontres qu'on a faites avec les gens. Puis ils nous ont dit... Je suis allée à un party à telle place, puis on a fait « OK, il faut trouver des images de ce party-là ». Là, tu sais, vraiment, c'était fou là, comme recherche. C'était tellement surprenant là, à chaque fois.
Ça a commencé aux Archives lesbiennes du Québec.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ouais, ça a commencé aux Archives lesbiennes. Après ça, on est allé aux Archives gays du Québec. Fait que ça a été nos premiers coups de pouce. Mais une des grandes rencontres, c'était... Diane Effernan, la lesbienne radicale qui vit à Saint-Adrien, qui avait sa commune de lesbienne en région. Tu sais ça, il était nu, il faisait du papier mâché, était à cheval, tu sais, le grand rêve lesbien, quoi. Puis l'autre rencontre marquante, c'est Linda Dawn Hammond, qui était la photographe à l'événement du Sex Garage, qui était un party privé qui a mal viré, descente policière, brutalité policière. Après ça, il y avait un sit-in, il y a eu encore de la brutalité policière. C'est le Stonewall, si on veut, québécois. Puis Linda Dawn Hammond était la photographe de la soirée. Elle avait son appareil photo, puis elle a tout documenté. Donc, on a pu avoir accès à la brutalité policière en photo. Puis elle vit à Toronto. On l'a invitée à voir le show, elle était tellement touchée. C'était vraiment marquant là, de rencontrer cette personne-là qui avait pris les clichés. Puis toujours habitée par ces événements-là. Quand j'ai parlé au téléphone, je voulais juste prendre un petit deux minutes, faire comme « Ah, quand est-ce qu'on pourrait se parler plus amplement? » Puis elle m'a déballé toute l'histoire. Là. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, qu'elle soit encore habitée par ça. Encore aujourd'hui.
J'ai envie aussi de vous partager quelque chose qui nous a marqué dans la création de CISO, c'est que la personne qui vit à Saint-Adrien, qui travaillait... C'était quoi l'organisme où le cinéma des femmes? Les vidéos des femmes?
Videl.
Ouais. OK. Puis, en tout cas... Ils appelaient la TV lesbienne, OK? Parce que leur caméra était toujours à « on », OK? Ils étaient dans toutes les parties, puis ils filmaient des événements lesbiens, puis ça a été très marquant. Ils ont des centaines d'heures d'archives de films, OK? Puis tout ça s'est entreposé à Saint-Adrien sur des « devices », je ne sais pas comment on dit ça en français, mais mettons des...
Supports,
mettons, qui pourraient pourrir. Fait que ça a été, pour nous, on n'en revenait pas que c'était là, puis on leur a demandé pourquoi on peut pas avoir accès à ces archives-là, mais la raison, c'est simple, c'est qu'ils ont promis aux lesbiennes à l'époque qu'ils n'allaient jamais montrer les archives à d'autres mondes qu'à des lesbiennes. Fait que là, on rentre dans un genre de tourbillon de « OK, mais là, il faut sauver les archives, il faut que les gens voient ça ». Il faut faire de quoi?
C'était une autre époque où on ne pouvait pas s'afficher, où on ne pouvait pas être visible, tu sais, puis on comprend tout le danger qu'il y avait derrière ça de perdre sa job, tu sais, de perdre sa famille, tu sais, fait que c'est ça. Mais maintenant que les réalités ont changé, mais c'était beau d'avoir des discussions ouvertes par rapport à ça, mais reste que il n'en démord pas, elle garde ça caché, elle et Suzanne, sa conjointe.
Ouais. Ouais, grande déception, mais on va... Manon, elle nous a dit, je vais débloquer un fonds, aller me chercher les archives. Oui. On était comme, OK, Manon, mais là, on a d'autres choses à faire, là. Nous autres, il faut qu'on aille en Abitibi, là.
Puis c'est dommage de ne pas avoir accès à ces archives-là, mais en même temps, je trouve ça beau aussi d'avoir, tu sais, donné la parole, que ça... Tu sais, je trouve qu'il y a un esprit de communauté qui est hyper fort là-dedans, là. Même si on aurait donc vraiment envie d'avoir accès à ces archives-là.
Il y avait une scène dans Ciseaux qui a été coupée, malheureusement, mais on avait créé une pièce secrète, puis toutes les lesbiennes dans la salle, les personnes s'identifiant comme lesbiennes, sortaient et allaient visionner les archives secrètes. Puis pendant ce temps-là, on projetait aux autres personnes Goldfinger de James Bond.
Oui, il y a une lesbienne, Pussy Galore, puis c'est ça, c'est terrible. Incroyable. Ce qui se passe avec Pussy Galore.
Elle se fait violer, mais carrément, oui. Ouais. C'est terrible. Elle, se fait, ben, elle vit carrément un redressement de James Bond. Ouais, de la correction de James Bond, qui dit « Hey! »
Puis elle le trouve cute à la fin, là. Ah, il s'embrasse en dessous du parachute, c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est ça, on a coupé cette scène-là parce qu'on s'est dit « On veut être inclusive, on veut pas séparer les gens. » c'était pas dans notre but. Ouais, mais... Ça aurait été quand même cool là, de faire le petit coin, le Lesbian Corner.
Oui, c'est ça, on appelait ça le Lesbian Corner. En plus, c'était bon!
Ah, là, c'est hot.
Pour avoir des versions VIP.
Oui, c'est ça. Les scènes coupées.
Faudrait. C'est ça. Vous abordez tous ces sujets qui sont quand même importants puis parfois graves avec humour. Pourquoi avoir choisi de le faire avec humour? Tu sais, des fois, on voit des pièces très graves, très, très sombres. Pourquoi l'humour en particulier?
Pour que ce soit digeste, parce que je pense que si on n'avait pas mis de l'humour là-dedans, on n'aurait pas passé à travers aux 15 minutes du show. Parce que c'est vrai que les luttes sont encore amenées, puis qu'il y a des choses horribles qui se sont passées. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, il faut mettre de la joie queer, il faut mettre de l'humour, il faut en rire, il faut montrer qu'on prend le contrôle du narratif, puis que c'est plus comme ça qu'on veut vivre la vie, puis c'est plus comme ça qu'on veut voir la vie. On veut que ce soit justement... la joie queer. Mais c'est vrai qu'on joue beaucoup avec la switch. On te fait pleurer, on te fait rire. On te fait pleurer, on te fait rire. C'est un peu intense, ciseaux pour ça.
Tout ce que vous dites par rapport à, tu sais, dans le fond, dans vos recherches et tout ça, puis moi, c'était... J'aime toujours le côté historique, puis j'aime justement d'aller chercher qu'est-ce, comme je disais tantôt, qu'est-ce qui nous amène à une compréhension d'aujourd'hui. Ben, tu sais, notre passé, c'est important de le savoir. Comme tu disais, je trouve ça triste un peu, tu sais, qu'ils ne veulent pas nécessairement les sortir, les archives, parce que probablement qu'on aurait peut-être des compréhensions qu'on n'a pas présentement, que là, on pourrait avoir. Mm-hmm. Puis que dans ces compréhensions-là, ça nous permettrait peut-être justement de renforcer nos luttes, d'avoir des choses tangibles. OK, je peux comprendre le fait qu'ils veulent garder ça encore. Peut-être qu'éventuellement, dans un futur, peut-être qu'ils vont changer d'idée. Mais... T'sais, je trouve que c'est riche l'histoire, puis le fait que justement vous avez réussi à dénicher des choses que, en majorité, que même si on fait des recherches sur Internet, on ne trouvera pas. Je trouve ça vraiment intéressant, là, cet aspect-là. Puis justement d'amener l'humour pour expliquer ces choses-là, justement, quand même, qui sont quand même assez dark. Mais de ramener ça avec un côté humoristique, ça fait justement de montrer que, t'sais, on n'est pas dans le « Ah, on fait donc pitié, puis tu sais, c'est donc difficile. » Oui, ça l'est, mais en même temps, on peut montrer qu'on est capable de rester debout puis rester droite. Là,
puis aussi, tu sais, la plupart des films qui parlent, tu sais, qui montrent un amour des communautés LGBTQ+, ça finit mal.
Oui.
Ça finit par, tu sais, une rupture, un suicide, tu sais. Fait que là, nous, on avait envie de finir en party, en joie. Puis montrer que, tu sais, on a le goût que les hétéros fassent comme ça a l'air vraiment plus le fun. Tu sais, pour une fois, là, tu sais, ça peut-tu être nous qui ont le vrai bon party?
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question. Donc, on joue à la question journalistique à la Éric Duhaime.
Oh!
OK. qu'est-ce que vous répondriez à une question d'un journaliste ou d'une journaliste? Qui vous dit, ouais, mais tu sais, pourquoi encore revendiquer, militer? Vous pouvez vous marier, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez faire tout ce que les hétéros font. Pourquoi vous chiolez encore? Qu'est-ce que vous faites encore chioler?
Mais on le mentionne, on cite beaucoup le show là, pendant le podcast. Là. Si vous venez voir le show, vous allez dire oh, « ils citent beaucoup leur show ». Mais il y a beaucoup de lois qui ont été votées, mais malheureusement, il y a encore tellement de discrimination et d'incompréhension. Donc, justement, d'en parler, d'être dans la place publique, de s'afficher, d'avoir son petit kiosque dans une école secondaire, de se tenir la main dans la rue, d'avoir un café avec son drapeau, c'est ça. C'est sûr que... on vit une période un petit peu plus radicale. On sent qu'il y a moins de tolérance. Puis il y a des amis à nous qui sont allés peindre un drapeau LGBTQ+, devant notre café. Puis on s'est questionné sur la sécurité de nos employés. Puis j'en reviens pas, tu sais, parce qu'on se dit, on pousse dans l'idée de se visibiliser puis d'occuper l'espace public, mais il y a eu quand même cette inquiétude-là qui nous a traversé l'esprit, puis on est comme ça. Justement, il faut continuer d'être là, il faut continuer de montrer des modèles positifs, montrer des gens qui s'aiment, qui sont capables de fonctionner dans cette société, puis c'est ça. Fait que c'est là la drive du militantisme.
Ben justement, Reine de café. C'est où? Puis est-ce qu'on peut venir boire un café?
Oui! Le café Reine Garçon, c'est en face du Pied de Cochon, pour ceux qui sont comme... Okay. On écoute un chef à cabane.
C'est
en face de...
Ah, OK, c'est correct, je sais exactement c'est où.
Ça fait un beau clash, quand même.
Oui! Oui. Ah, oui, mais...
ils sont quand même queer.
Ouais, ben non. Ils sont pas queer, mais ils sont... non, mais tu sais, ils sont pas... Tu sais, premièrement, genre, ils sont comme viande à fond. Ouais. Puis, ben, nous autres, on a du bacon. Mais tu sais, dans le sens... OK, bon, je vais pas m'empêtrer là-dedans.
C'est pas de la viande, du bacon, tout le monde sait ça.
Non, c'est ça, l'affaire. Ah, oh, ça m'a tellement marqué, le film Babe. Mais ça, ce sera pour un autre podcast. Mais c'est... Ben oui, le Café Reine Garçon, qui est un lieu qu'on a créé en 2016, qui est tombé du ciel. C'est vraiment un endroit merveilleux qu'on a bâti de rien pantoute. Tu sais, au début, on est arrivé, on a mis tous nos meubles dans le café, puis on a mis une machine à café, puis là, les gens sont rentrés.
Wow! Les meubles qui sortaient de votre U-Haul.
Oui, c'est exactement. Ça. Exactement. Puis on a tout appris sur le tas. Puis là, ben, tu sais, on a travaillé pendant 2 ans, 80 heures semaine, les deux sur le plancher. Oui. En plus, on créait des shows en même temps. On était complètement sautés. Puis, ben, finalement, ben là, on a du staff à temps plein.
Oui.
On a une gérante.
On les salue, on les aime tellement.
Absolument.
Ils travaillent fort.
Moi, j'ai vraiment trop hâte. Je vais à Montréal dans même pas une semaine, la semaine prochaine. C'est clair, là. J'ai un trou dans mon horaire.
Yeah! Ben oui, faut que tu viennes voir ça. Puis, oui. Tu sais, comme, tu rentres là, t'es comme, tout le monde est queer ici. Tous tes clients, tout le monde est queer. C'est le fun. Puis là, ce matin, on a eu une belle surprise dans le culte Montréal.
Ouais!
Qui font comme des tops. On est le top 1 café à Montréal.
Top 1!
Ben top 1!
Oh, hey, wow! Écoute, c'est incontournable à ce temps-là.
Non, mais c'est fou! J'étais comme,
petit frisson pour vous autres.
Ouais! La preuve, c'est que le café, l'industrie du café, c'est tellement un boys club.
C'est vrai?
Fou, tu sais, il y a vraiment le cliché du dude avec ses tatous, sa petite moustache roulée, puis qu'une fille, c'est pas capable de faire du bon café, mais regarde, nous autres, on est une gang de queer, puis on fait du vraiment bon café, puis en plus, le staff est vraiment smart, puis ils sont très cool.
Ouais.
Voilà. J'ai fini mon speech d'invitation au Café Reine Garçon.
Mais aussi, c'est un café culturel. C'est sûr que la pandémie a fait mal à la programmation, mais les gens qui veulent essayer leur texte, leur poésie, la musique, ils peuvent louer le café, ça coûte des peanuts. C'est juste pour défrayer le staff qui est sur place. Puis c'est un petit endroit, un petit cocon. Là. Même s'il y a juste 3 personnes qui viennent voir ta performance à l'air plein, là, c'est tout petit.
Oui. Puis est-ce que vous avez été confus? Parce que tantôt, vous avez dit, tu sais, vous avez hésité un peu avant de faire peindre le drapeau ou d'identifier comme vraiment endroit queer officiellement, tu sais.
Ouais.
Déjà, avec le nom du café, je pense que ça donne un indice quand même, qu'en tout cas, qu'il y a une ouverture. Ben, je sais pas.
C'était tellement inconscient.
On comprend pas. On est comme guidés par des ancêtres lesbiens, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, sérieux, parce qu'on a choisi le nom du café avant d'être ensemble, avant que je sache que j'étais pas hétéro, là.
Okay.
Non, on est hanté. Ah. On est un couple hanté.
Mais moi, ça faisait longtemps que je savais que Mélo... je l'ai su bien avant elle. Parce que oui, j'ai un gaydar très, très performant.
C'est là que t'as commandé le U-Haul.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Puis là, de ce que je comprends, c'est quand même open queer, c'est affiché sans l'être nécessairement. Ouais. C'est pas votre nécessairement la porte d'entrée, mais est-ce que vous avez été confronté à certains événements plus ou moins...
Non.
Non. Puis on est dans cette aventure-là avec un partenaire d'affaires, il s'appelle Luc Major. Il nous avait quand même verbalisé qu'on lui a appris qu'on était un couple, finalement. T'sais. On entrait en affaires ensemble, fait que c'est sûr qu'on voulait l'informer que la situation matrimoniale avait changé. Puis c'était une de ses inquiétudes, mais ça venait pas de lui. C'est un de ses amis qui avait dit « Oh mon Dieu, mais vous allez peut-être avoir de la discrimination, du vandalisme. » Mais non, c'est... pas relié à l'orientation sexuelle. Okay. Ça, il y a eu des épisodes vraiment en poche, mais ouais, à date, je pense pas. Non? Oui?
Non.
Ça va bien.
Pas de ce que vous savez.
Ça va vraiment bien. Ouais. Puis, moi, je suis... il y a une personne qui appartient à un club de course à Montréal, queer. Okay. Safik. Puis là, on est rendu genre 35. On va courir au Parc La Fontaine, puis ça finit tout le temps au Café Reine Garçon. C'est vraiment nice. C'est
Outrun Club.
Outrun Club.
J'aurais une dernière question concernant le café.
Oui!
Vous vous êtes identifiée comme lesbienne. Mm-hmm. Puis vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de bar lesbien. T'sais, vous vous questionnez pourquoi. Mm-hmm. Là, vous avez fait un café queer. Pourquoi ne pas l'avoir fait lesbien?
Pourquoi ne pas... Ben, c'est parce que nous, moi, je m'identifie queer lesbienne.
Voilà. Okay.
Je suis les deux.
OK.
Je suis les deux. Ouais, tout simplement.
Mais oui, on se considère comme un espace public lesbien friendly, tu sais. Puis il y a aussi le Champs, qui est une nouvelle star dans le monde du bar lesbien. Puis il y a aussi l'idéal qui s'affiche pas nécessairement, okay. Mais il y a l'idéal qui existe. Fait qu'il y en a des lieux, mais c'est pas comme dans les années 80.
Ouais. Okay.
Puis aussi, c'est que c'est notre désir d'être inclusive dans notre staff comme parce qu'on veut que les gens du quartier viennent. On veut que les gens fassent... On veut pas que les gens fassent comme « c'est un café de lesbienne, je vais pas aller me chercher un café là ».
Oui, c'est ça.
Tu sais, parce qu'on les a, les petites familles qui viennent. Le petit gars qui vient tous les jours avec sa pièce chercher son biscuit. Tu sais, on les a. Tu sais, c'est vraiment un café de quartier, là. C'est full. Tu sais, on connaît le nom de nos clients. C'est vraiment le fun, mais... fait que c'est vraiment dans le désir d'être inclusif aussi. Je pense que queer inclut plus de gens que lesbien.
Ben oui.
Mais lesbien, ça fait juste spécifier que on est deux femmes en couple, les deux propriétaires aussi.
Oui, puis on aime l'afficher, lesbian owned, ouais.
Ouais.
Une entreprise fondée par des lesbiennes.
Oui, d'ailleurs, quand on voyage, on cherche tout le temps ça. On cherche, mettons, on est à New York, on va chercher lesbian owned café, okay. Puis on trouve, ça se trouve, il y a vraiment du voyage, du tourisme queer qui se fait, là.
Mais vos journées font combien d'heures?
En fait, on compte plus en heures, compte en secondes.
Mais tu sais, il est quelle heure présentement? Mettons.
21h40.
Ben, c'est ça. Ça commence à 7h, puis ça finit à 10h le soir. C'est pas mal ça.
Ben, c'est quand même...
Okay. C'est pas pire.
C'est juste que vous vous arrêtez jamais.
Non.
Dans cette période-là.
Non, puis c'est le fun, tu sais. Je sais que c'est terrible, là. C'est ça le qui mène au burn-out, là, de trouver, genre, son travail ben trop le fun, mais... Mais c'est ça, il y a tellement de beaux projets qui se pointent. On est dans une belle agence aussi, l'agence IEL, avec des dragues, des humoristes, des écrivaines. C'est ça, il y a vraiment des belles choses qui se passent pour nous deux. Fait qu'on est occupés, mais on est tellement bien entourés. Justement, le café, le staff est tellement autonome, merveilleux. Notre gérante est sa coche, c'est ça. Et même, ils nous dérangent pas assez, tu sais. À chaque fois qu'on les brief, on est comme, hey, tenez-nous au courant, tu sais, comment ça se passe au café?
Ça roule tout seul.
Ouais,
ça roule tout seul. Puis, tu sais, le pleurer dans la douche aussi, on s'est entouré. Parce que,
ouais.
Tu sais, comme au café, le pleurer dans la douche aussi, au début, on faisait tout seul. Puis là, ben, directrice technique, directrice de prod, ça change une vie. Vraiment, vraiment. La charge mentale... ça devient vite intense.
Puis on voit qu'ils sont vraiment impliqués émotionnellement dans CISO. Ils sont vraiment excités. On a vraiment vécu toute une aventure. Puis on est contente que ça se finisse pas là, tu sais, qu'on puisse se promener en région aussi. Ouais. Ouais, on est vraiment contente de sortir de Montréal. Ça fait vraiment du bien.
Nous aussi.
Ouais.
On est bien en région.
Yeah. Puis on va même traverser l'océan là. On va aller en Belgique avec CISO. Ouais.
Wow.
Ouais,
wow,
au bravo. Festival Fame.
J'ai la question qui tue pour la fin.
Oh!
CISO, mythe ou réalité?
Réalité.
En fait, je ne sais pas, nous, on fait l'amour en faisant un grand câlin. Un long câlin.
Oh.
C'est pas vrai!
Non, ça, c'est le cliché. Ça devrait être ça, le cliché. Pas le ciseau, voyons. Non.
Pendant 6 heures.
On fait un grand câlin.
Ben. Ça répondait à ta question?
C'est parfait.
Wow! Ouais.
Sur ces belles paroles, la tradition de Poupoule, c'est de laisser un mot de la fin à chacun et chacune. Qui aimerait démarrer avec son mot de la fin? Julie, tu veux-tu y aller?
Absolument. En fait, en lien avec une activité commune qu'on a fait ce soir avec des jeunes où on leur a demandé de nous présenter leur personnalité, leur personnage, personnalité inspirante. J'ai envie ce soir, aujourd'hui, c'est vous autres, c'est vous deux. Non, mais c'est une super belle rencontre. Je suis vraiment contente. Puis c'est pas juste pour plugger dans le show, là, votre show ou pour le podcast. Vraiment une super belle rencontre. Puis ça donne envie on a parlé un peu plus tôt, mais d'aller explorer aussi le côté artistique, la drag king. Ça fait quelques fois qu'on en parle, mais j'aimerais vraiment organiser un atelier de drag avec vous autres.
Oui.
Incessamment. On est en 2023, on l'a dit tantôt, mais en tout cas, on verra. Quand ça pourra s'organiser, mais ça serait bien. C'est mon mot de la fin.
Yeah, ça serait vraiment chouette.
Moi, je peux-tu enchaîner?
Ouais, vas-y, vas-y. Hein.
Je viens d'avoir une idée. Je vais citer une phrase du spectacle Ciseaux. Avec l'accent aussi du personnage. Okay?
Oh!
Juste pour mettre en contexte, c'est un homme gay dans les années 70 qui tripe cuir. Oh. Okay. Il faut tant et tant de larmes pour avoir le droit d'aimer. Nous, on avait fini de pleurer.
Oh. Oh. Wow!
J'aurais aimé filmer ce moment.
Oh! Hey, moi, on dirait que ça... J'arrive pas à produire un mot de la fin. Je veux pas que ça finisse.
Oh. Mais ça reste un beau mot de la fin.
C'est un beau mot de la fin. Ça peut-tu continuer?
On peut.
Avec un début.
Mais je trouve ça important, cette communication-là. Le fait qu'on discute ensemble, qu'on est visible dans la place publique, c'est ça. Moi, merci pour ça, puis merci de l'invitation. On est vraiment choyées et heureuses d'être là.
Merci à vous d'être venus, en fait. Moi, j'ai trouvé ce moment super agréable, donc merci beaucoup. Puis à quand un livre vulgarisé sur les femmes lesbiennes qui ont marqué l'histoire du Québec?
Oh, ça serait merveilleux. J'espère qu'il y a des oreilles pertinentes qui sont à l'écoute de cette demande-là. Une belle nouvelle par rapport à Ciseaux, c'est que ce sera publié. Donc, l'année prochaine.
Wow.
Donc, au moins, on aura accès à ces archives-là sur papier. Peut-être que certaines personnes vont interpréter ces scènes-là, on ne sait pas.
Mais il y a aussi le RLQ
oui.
qui a sorti tome 1 et tome 2 de l'histoire lesbienne. D'hier à aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Là. C'est épais, là, cet ouvrage-là.
C'est une bible. C'est tellement un bel ouvrage et on travaillait tellement fort. Il y a Julie Vaillancourt qui était, entre autres, à la tête de ce projet-là. Ouais. On la salue, mais c'est vraiment beau là, pour l'avoir feuilleté. Là. Oh là là, on en a pour longtemps. Là. La blague qu'on dit, c'est qu'on aurait bien aimé avoir la brique avant de créer Ciseaux, mais bon. On peut juste confirmer les choses qu'on... Ah oui, ben, okay, on confirme.
Pour faire un Ciseaux 2.
Oui, c'est ça. Ah!
Ben, moi, je vais y aller avec mon classique. Peu importe qui qu'on est, il faut toujours se regarder avec ses propres yeux et non ceux de la société.
Yes!
Parfait. Est-ce qu'on dit bye avec nos plus beaux bruits de poule possible?
Oh!
Ça vous dit?
Oui.
Oh oui!
Okay. Dans la poule!
3, 2, 1. C'est déjà fini! Mais pas de panique, si tu veux, tu peux écouter ou réécouter les épisodes de la saison 1 sur Spotify et Apple Podcasts. Et si le cœur t'en dit, eh bien tu peux laisser un commentaire dans ton application de podcast préférée. Et si Poupoule et moi te manquons trop, eh bien je t'invite à nous retrouver sur notre page Facebook et notre page Instagram. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et j'en profite également pour remercier la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue qui a financé le matériel pour ce podcast. Et si tu es curieux ou curieuse ou que tu as besoin d'aide, eh bien je t'invite à les contacter. À bientôt !